Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bocoté. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Arthur de Vatrigan, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous allez bien tous les deux?
Je m'autofiche humaniste ce soir.
Humaniste?
Oui.
Ah, ça
vous reviendrai.
Mais ça vous va très bien.
Mais j'en doute pas.
Vous êtes également un grand humaniste, Arthur de Vatrigan. Je ne vous pose pas la question, j'ai la réponse. Vous êtes un humaniste.
Pas d'insulte.
Il est quasiment 19h. Le point sur l'information, c'est avec vous, Adrien Spiteri, journaliste.
Les pertes financières s'accumulent pour les pêcheurs dans le golfe de Gascogne. Depuis le 22 janvier jusqu'à mardi inclus, près de 450 navires ont l'interdiction d'exercer. Le but, éviter les captures accidentelles de dauphins. Le gouvernement leur a promis des indemnités à hauteur de 80 à 85% de leur chiffre d'affaires. Un adolescent de 16 ans mis en examen pour assassinat est placé en détention provisoire 5 mois après la mort de Sokaina. Elle avait été tuée d'une balle perdue dans sa chambre, victime collatérale des trafics de stupéfiants dans la cité phocéenne. Au domicile du suspect, les enquêteurs ont découvert une Kalachnikov et un pistolet de 9 mm. Et puis les ministres des Affaires étrangères du G7 ont observé une minute de silence aujourd'hui à Munich en hommage à Alexei Navalny. L'opposant russe est décédé hier dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique après 3 ans de détention. Pour le G7, Alexei Navalny a été mené à la mort pour ses idées et son combat pour la liberté.
À la une de Face à Mathieu Bocoté ce samedi soir, décryptage du rapport de François Jost sur CNews. Le sémiologue mandaté par Reporters sans frontières dit avoir passé au rayon X la chaîne, ses émissions pendant 2 semaines, il y a 2 ans, en comparaison à BFM. Cette étude est la preuve pour RSF que CNews ne respecte pas ses obligations. L'humaniste autoproclamé avait bien du mal sur Sud Radio à rendre son étude crédible et tout à fait gauche pour justifier un éventuel fichage des invités sur un plateau. Le rapport de François Jost décodé par Mathieu, c'est dans un instant. Mathieu, vous souhaitez ensuite vous arrêter sur la décision du Conseil d'État, ses conséquences sur un état de droit qui basculerait dans l'arbitraire. À travers cette affaire, n'est-ce pas notre liberté d'expression qui est menacée? On en parle dans cette émission. Enfin, Mathieu, vous recevez ce soir Michel de Jagère, pardonnez-moi, Philippe de Villiers me disait de lui qui est un esprit universel, un homme qui domine son sujet. Vous allez revenir avec l'historien sur ces périodes où l'Europe faisait face aux grandes invasions. Voilà le programme Face à Mathieu Bocoté, c'est parti. Mathieu Bocoté, la décision du Conseil d'État contre CNews a suscité une vive controverse cette semaine. Cette décision est fondée sur un rapport, celui de François Jost, que plusieurs découvrent tardivement. Et c'est à ce rapport que vous souhaitez consacrer votre premier édito.
Oui, c'est un rapport dont j'ai eu l'occasion de parler cette semaine. Et je l'ai dit, pour moi, c'est un rapport qui, je ne parle pas de l'homme, mais si je parle du rapport, qui est intellectuellement épouvantable. C'est un des textes les plus faibles que j'ai lus dans ma vie. Encore une fois, je dis, je parle du texte. J'ai invité, je le précise, François Jost pour en parler ce soir ici. Je lui ai proposé un format où vous auriez animé, avec une stricte égalité des temps de parole pour lui et pour moi, pour débattre de son rapport. Il n'a pas voulu venir, c'est tout à fait son droit, m'expliquant que son rapport n'était pas une opinion dont on discute, mais une analyse objective. Donc soit, c'est son droit. Mais il nous permettra de ne pas être d'accord avec l'idée que ce soit une analyse objective et de décrypter donc ce rapport qui fonde aujourd'hui une décision de justice. Il faut quand même le dire. Premier élément, c'est une question de méthodologie élémentaire. On nous dit, c'est la thèse de Jost qui est reprise par RSF, il y aurait une très grande majorité d'intervenants sur CNews, politiques et non politiques mis ensemble, qui seraient de droite ou d'extrême droite. Ça, c'est la thèse de base. D'ailleurs, ce rapport circule depuis un temps. Vous savez, les chiffres lancés par Jost circulent depuis un temps dans l'espace public pour dire qu'il y aurait une surreprésentation de la droite et de l'extrême droite sur la chaîne. Alors, premier élément, est-ce qu'on trouve une définition de l'extrême droite, parce que c'est le vrai concept qui pose problème, est-ce qu'on trouve une vraie définition de l'extrême droite dans ce rapport, ou le début d'une définition de l'extrême droite? Problème? Non. Il n'y a pas de définition. Donc, on nous explique qu'il y aurait une surreprésentation d'un courant qu'on ne prend pas la peine de définir. Et nous savons, je crois, on peut en convenir, que le concept d'extrême droite est un concept qui vise non moins à décrire qu'à décrier. C'est un concept qui stigmatise, c'est un concept qui sert à marquer négativement au fer rouge de l'infréquentabilité celui à qui on la colle. Donc, on peut se demander comment savoir si quelqu'un est d'extrême droite. Mais, de passage sur ce radio cette semaine, François Jost, le sémiologue, nous a répondu. Il nous a dit, donnant l'exemple d'Omerta, si Le Monde dit qu'Omerta est d'extrême droite, alors c'est d'extrême droite. Je constate donc que Le Monde est transformé en autorité de fichage réglementaire ayant le pouvoir de donner le positionnement politique des uns et des autres. Il ne semble pas venu à l'esprit de François Jost que Le Monde est en tant que tel critiqué, que plusieurs notent les biais idéologiques du monde, que tous ne reconnaissent pas la compétence universelle du monde pour ficher politiquement les uns et les autres. Ce n'est pas un détail. Donc, il nous dit, Le Monde le dit, donc c'est le cas. Alors, on est, pourquoi pas Le Figaro alors? Pourquoi pas Libé? Pourquoi pas L'Incorrect? Non, mais c'est Le Monde, selon François Jost. J'y vois, quant à moi, le signe de l'appartenance à un petit milieu autoréférentiel où on colle les étiquettes les uns les autres et où les sources de légitimité sont très restreintes, très limitées. Où souvent, je parle pas de lui, mais des militants se prennent pour de grands universitaires et oublient la dimension idéologique de leur travail. J'ajoute que dans le texte de Jost, on parle de l'émission Face à l'info. Vous savez, l'émission à laquelle je participe tous les soirs du lundi au jeudi. Il y a une méconnaissance fascinante de l'équipe, parce que l'équipe de Face à l'info, vous connaissez, c'est moi, Charlotte Dornelas, Dimitri Pavlenko, Marc Menon et Guillaume Bigot. Guillaume Bigot et Dimitri Pavlenko sont là deux jours dans la semaine, deux jours l'autre. François Jost nous dit, c'est l'équipe de Bock-Côté, Dornelas, Pavlenko et Eugénie Bastier. Je note que Eugénie Bastier était là à deux ou trois épisodes au début, dans la période quand Zemmour a quitté. Donc, à deux ou trois émissions, peut-être quatre ou cinq, mais ce n'est pas une figure structurante de Face à l'info. Pourtant, il la présente comme si elle allait de soi. Comment peut-il penser cela? Eh bien, encore une fois, si on cherche un peu, il dit aussi que c'est une équipe de chroniqueurs ultra-conservateurs. Dimitri Pavlenko, pour quiconque regarde ça, est un libéral. Marc Menon est un homme de gauche libertaire. Je pense qu'il le dit de manière assez claire, libertaire et libertin. Conservateur, moi, si vous y tenez à tout prix, mais d'abord et avant tout indépendantiste québécois. Et Charlotte Dornelas, je la laisse auto-étiqueter. Mais en ces matières, je pense que le mot ultra-conservateur est assez étrange. D'où ça nous vient? Mais encore une fois du Monde, un article du 13 septembre 2021 qui qualifiait la nouvelle équipe de chroniqueurs ultra-conservateurs. Donc l'autorité du Monde est encore reconnue. François Jost, sur Sud Radio, a par ailleurs dit de quelle manière on va ficher les gens. C'est quand même une question. Comment on fiche les gens? Comment on colle l'étiquette? Ben, il dit pour valeur actuelle, par exemple, c'est le critère qu'il utilise, il dit tout le monde le dit. Donc, valeur actuelle est d'extrême droite parce que tout le monde le dit. Mais qui est ce tout le monde? À tout le monde, je n'ai pas été consulté là-dessus. Je pense surtout que la rédaction de Valeurs actuelles n'a pas été consultée par François Jost dans les circonstances. Et tout le monde, je voudrais savoir qui est ce tout le monde? Et il parle aussi du consensus. Alors, qui est ce tout le monde qui peut fixer l'étiquette des uns et des autres encore une fois? Et il y a un problème ici. Que faire de ceux qui ne se reconnaissent pas? Non, parce que là, vous savez, il faut ficher les gens. Donc, que faire de ceux qui ne se reconnaissent pas dans le clivage gauche-droite? C'est quand même un problème. Il y a beaucoup d'intellectuels, vous savez, qu'on reçoit sur ce plateau. Si on leur demande, êtes-vous de gauche ou de droite, ils vont nous dire, personnellement, je me dérobe à ce clivage. Je ne m'y reconnais pas. Je ne m'y reconnais plus. Ce n'est plus un système dans lequel je me projette. Alors, la question que je pose, quand il va falloir, parce qu'on le sait, maintenant, l'idée, c'est de ficher les présentateurs. Vous, Elliot, ficher les journalistes, ficher les chroniqueurs, ficher les invités. Pour savoir, il prend la peine de nous dire, d'ailleurs, juste aussi sur Sud Radio, pas seulement sur le plan politique, mais peut-être aussi religieux et tout ça. Je le sais, c'est pas moi. Donc, aussi fichage religieux. Alors, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est premièrement, quel va être le système de fichage? Quel va être le critère de fichage? Religieux, politique, idéologique, c'est intéressant quand même. Il nous propose, mais c'est pas le seul à le dire, ça je le précise, on nous propose trois méthodes pour l'instant pour être capable de ficher les gens, savoir comment les classer dans le système de fichage généralisé qui nous est proposé. Le premier, c'est l'autodéclaration. Dites-nous pour qui vous avez voté à la présidentielle. On comprend. Donc, pour qui vous allez voter? Donc, on va demander aux gens de... C'est la fin du vote secret. Si vous êtes dans les médias, c'est la fin du vote secret. Vous devez confesser votre vote pour qu'on puisse vous qualifier. Deuxième méthode possible, le titre auquel vous êtes associé. Et c'est là que c'est intéressant que tout le monde, par exemple, classe Valeurs Actuelles à l'extrême droite, apparemment, selon Jost. Donc, autrement dit, je veux savoir quelle est l'instance de pouvoir qui va pouvoir définir l'identité idéologique du titre qui fait en sorte que l'individu qu'on reçoit devient un pur représentant d'une catégorie et non pas un intellectuel à part entière. Ou alors, les colloques ou les événements auxquels on fait des conférences. C'est un critère qui nous est proposé. Donc là, ça veut dire, si je fais une conférence, par exemple, devant les LR, et une autre devant Reconquête, et une autre devant une association du Parti socialiste. Je vous parle de moi ici, j'ai déjà fait des conférences devant tous ces gens. Où doit-on me classer à travers cela? Et il y a le troisième critère qui nous est proposé, c'est faire une enquête simplement pour savoir comment les gens se positionnent idéologiquement et socialement. Donc, je devine qu'il y aurait une bureaucratie autorisée responsable d'accumuler les informations selon un système de fichage clair qui permettrait de savoir qui représente quoi et qui est transformé en quota représentatif d'un courant. Je pose une question qui me semble importante. Imaginons, parce que ça va arriver, qu'il y ait ce système de fichage généralisé, cette haute autorité responsable du fichage des invités et des intervenants publics. Imaginons que la haute autorité nous colle une étiquette dans laquelle on ne se reconnaît pas. Est-ce qu'il y aura une instance d'appel pour nous permettre de dire « je ne me reconnais pas dans cette étiquette » et qui sera sur cette instance d'appel? Et que se passe-t-il si au terme de l'appel, par exemple, on vous classe, Eliott, je ne sais pas, mais on vous classe comme socialiste. Il vous dit « je ne suis pas socialiste, je suis communiste ». Et là, donc vous contestez. Et là, l'instance d'appel dit non, vous n'êtes pas communiste, vous êtes socialiste. Mais qui va décider dans les circonstances dont votre propre jugement sur votre œuvre n'existe plus? Ce que vous êtes en dernière instance, ça va être un échantillon représentatif d'une catégorie administrative censée représenter le pluralisme dans les médias. Rappelons-nous encore une fois que l'instance qui permet d'étiqueter les gens, c'est Le Monde, journal universellement reconnu pour son absence de biais idéologique, nous le savons.
Permettez-moi de rester pour l'instant journaliste.
Mais ça, non, mais non, mais je vous permets pas. Mais on ne vous le permet plus. Vous êtes un journaliste communiste.
Bon, peut-être animateur. Il parle d'animateur.
Animateur communiste.
Animateur communiste. Vous avez parlé du système de classement idéologique des uns et des autres. Mais qu'en est-il, Mathieu Bock-Côté, de la définition de l'information et de l'opinion selon François Jost?
Alors, on en a un peu parlé cette semaine. Moi, je trouve ça fascinant. C'est qu'on nous dit il y a une chaîne qui fixe ce qu'est l'information. C'est BFM. Et si on s'éloigne de BFM, alors on bascule dans l'opinion. C'est dit comme tel. Hein. Je n'exagère pas la portée de ce rapport, dont la méthodologie, de ce point de vue, est discutable. On pourrait dire une méthodologie fascinante, à mon avis, de faiblesse intellectuelle. Donc, je cite, au fil des jours, je cite le rapport Jost, on constate que plus de 3 des 4 ou 5 informations au cœur de la matinale de CNews n'ont pas d'existence au même moment à l'antenne de BFM TV. CNews ne retient pas forcément les informations qui font l'actualité pour ses concurrents. En insistant fortement sur les dangers de l'immigration et de l'insécurité, la chaîne crée un monde où l'information est sélectionnée en fonction de ses propres valeurs, portée par des chroniqueurs qui interviennent pour dire ce qu'il faut penser des informations. Fin de la citation. C'est assez intéressant. Donc, vous comprenez que BFM fixe la norme, fixe les événements dont on doit parler, et si vous vous éloignez de la ligne éditoriale fixée par BFM, vous devenez une chaîne d'opinion. Et ensuite, Jost accuse CNews et dit de participer à la construction de ce que nous avons appelé un monde qui est plutôt un microcosme peu soucieux du macrocosme de l'actualité. Moi, je pose la question, qui définit le macrocosme? Qui a l'autorité, encore une fois, de fixer ce qu'est le heureux gardien du macrocosme? Et encore une fois, on touche à la question, vous savez, on dit quelquefois on amplifie des faits divers ou non, mais qui décide ce qui est un fait divers qui mérite d'être considéré comme un fait de société, ou alors c'est un fait divers qui en est véritablement un? Quelles seront les instances autorisées pour nous dire de quoi on peut parler ou non? Vous savez, soit dit en passant, il y a un tweet qui circule un peu, où ça fait quelques années, on parlait du livre d'Agnès Verdier-Molinier sur, je pense que c'était sur la 2, j'espère ne pas me tromper, ouais, tout le monde dans un JT. Et François Jost s'en inquiète sur Twitter en disant « Mais pourquoi on parle de ce livre-là? C'est de l'auto-promo. » Et là, je pense qu'il y a un hashtag qu'on dit « CSA ». Ensuite, il s'autocritique en disant « Ah, j'ai réagi trop vivement. » Mais on comprend encore une fois qu'il faudrait y avoir une instance critique pour décider de quel livre on peut parler, oui ou non, si c'est de l'auto-promotion ou non. Je ne sais pas si on parlait des livres de M. Jost dans le JT, est-ce que ce serait, dans ce cas-là, de l'auto-promotion?
Mathieu, si ce rapport est si mauvais, comment a-t-il pu fonder la décision du Conseil d'État.
Alors, on l'a vu à Sud Radio, vous l'avez mentionné, je crois qu'il était incapable de défendre son rapport. C'est la preuve à évoluer toujours dans le même milieu, à ne jamais fréquenter des gens qui ne pensent pas comme nous. Et bien, dès lors qu'on nous pose des questions, on est incapable de répondre. Moi, je trouve ça assez fascinant. Encore une fois, je le redis, je l'ai invité à débattre ce soir dans un format où il y aurait 50-50% de temps de parole et qui mis en scène par vous, il a refusé. C'était tout à fait son droit, mais qu'il nous permette de dire que ça aurait été intéressant de débattre de tout ce que j'ai évoqué ici. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Bien, tout simplement, le Conseil d'État. En fait, il y a un mouvement pour fermer CNews aujourd'hui, pour chercher à fermer la chaîne. C'est très clair, il y a des appels politiques et tout ça. Mais le Conseil d'État avait déjà sa condamnation. Le Conseil d'État, assez socialiste dans ses orientations, il avait déjà la condamnation. La preuve est venue après la condamnation. Et même si la preuve n'était pas à la hauteur, la condamnation était déjà établie. Et c'est ce dont nous avons été témoins ces derniers jours.
Arthur de Vatrigan, quel regard portez-vous sur le rapport de François Jost?
Alors, ce rapport, il date d'il y a 2 ans. Ça, c'est factuel. S'il est brandi aujourd'hui comme un talisman antifasciste, ça c'est un commentaire, c'est évidemment la suite de l'avis rendu par le Conseil d'État. Mais il ne faudrait pas non plus oublier que dans le caddie, il y a, vous savez, les états généraux de l'information lancés par Emmanuel Macron il y a quelques mois, qui, pour je cite, que chacun voit respecter son droit à une information libre, indépendante et fiable. Ça c'est une mise en contexte, j'explique pour M. Jost. Rappelons que dans ces états généraux, il y a un comité de pilotage qui est composé de 5 personnes. Parmi ces 5 membres, il y en a 3 qui viennent de la presse. Il y a Bruno Patino qui vient du monde de Télérama et de France TV. Vous avez Nathalie Collomb qui est une ex de Libé et de l'Obs. Et vous avez Christophe Deloire qui nous a montré avec talent tout son goût pour le pluralisme et la démocratie. Alors autant vous dire que dans ce comité, pour chercher une trace de pluralisme, même avec un microscope, ça ne marcherait pas. Donc fort de son titre et de sa mission, le camarade Deloire monte au créneau pour dénoncer ces news, avec la crédibilité un peu d'un amoureux éconduit. Je vous rappelle qu'il a reçu une fin de non-recevoir de l'ARCOM, et donc il va aller chouiner au Conseil d'État comme un enfant qui en a privé de goûter. Et comme par hasard, le renouvellement ou non des fréquences pour la diffusion des TNT arrive prochainement. Il faut lui reconnaître donc un sens du timing, fiable, libre, indépendant et désintéressé, même si RSF, je rappelle, va toucher 3000 euros de dédommagement de la part de l'ARCOM, comme quoi la délation, ça rapporte aussi un peu. Si on revient au rapport, il faut faire comme tous les mauvais romans de guerre, il faut commencer par la fin, ça fait passer le temps et ça évite d'avoir des déconvenues. La conclusion de ce rapport est sans appel, CNews avance masqué. C'est ce qu'il dit à la fin. On a vu des agents doubles plus discrets. L'auteur de ce rapport donc s'appelle François Jost, on cherche encore sa légitimité, mais après tout on lui commande un boulot, ça flatte, ça occupe, ça permet de rapporter un peu, donc il exécute et puis il en profite pour donner un peu ses goûts, ses couleurs, ses préférences. Donc pour savoir la bonne information, il rate BFM, mais pour savoir qui est méchant et qui est gentil, lit Le Monde. Mais comme il a expliqué il y a quelques jours, sur Sud Radio il me semble, CNews est pour lui, je cite, une chaîne d'extrême droite et ça le gêne. Encore un qui a oublié de changer les piles de sa télécommande, mais passons. Pour savoir si le rapport doit être sérieux ou pas, lui il a compris, il doit tout justifier. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ressort l'animal préféré de Deloire, le putois, on appelle ça l'extrême droite en journalisme. C'est pratique, ça fait toujours son petit effet, surtout dans le camp de la gauche qui est le camp de François Jost. En tout cas c'est ce qu'a indiqué sa fiche Wikipédia jusqu'à aujourd'hui, tout d'un coup ça a disparu. Et le camarade Jost, donc, enfin limier, débusque la supercherie, ce qui compte dans le pluraliste, c'est ne pas que inviter à parole légale les représentants politiques, mais c'est renifler derrière chaque intervenant, chroniqueur, journaliste, éditorialiste, l'idéologie qui se cache. Donc si vous voulez, là on parle de sémantique, traduction sur la chaîne BFM, les intellectuels neutres et objectifs proposent des analyses sur des faits de société. Sur CNews, vous avez des idéologues militants qui font des commentaires sur des faits divers. Voilà la sémantique qu'il propose. La question est donc comment différencier les deux? Comment différencier le vrai bon journaliste, notre objectif qu'on appelle un journaliste de gauche, des autres? Alors il a expliqué qu'il y avait 3 pistes au sein de l'ARCOM. La première est déclaratif. Bon, il a tout de suite compris que c'était mal barré, parce que personne ne va dire, ou peut-être un ou deux, moi je suis d'extrême droite. Donc ça ne marche pas. La deuxième, elle est plus marrante, c'est on va chercher des liens passifs, des amitiés, une présence dans les meetings de journalistes, de chroniqueurs, ce qui nous rappelle la belle époque de la Stasi, pour savoir à peu près où est-ce qu'ils sont. Et la troisième, celle qu'il préfère, Mathieu l'a rappelé, c'est on se fonde sur comment vous classez les gens étant le journal Le Monde. Alors lui, il opte pour cette solution-là, forcément, parce que la deuxième, elle est un peu risquée. Par exemple, si vous étiez ami avec l'écrivain Rob Grillet, qui expliquait juste un peu avant sa mort, j'aime les petites filles, surtout si elles sont jolies, est-ce que ça vous fait de vous un complice? Bon, si un canard au hasard Le Monde pétitionnait pour la légalisation de la pédophilie, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore les promoteurs de la pédophilie? Si encore un autre hasard, le journal Libération se réjouissait de l'arrivée de Mao au pouvoir, est-ce que ça en fait un journal groupie de génocidaires? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser si on commence à chercher dans le passé des gens. Donc pour conclure, si vous voulez, moi je vois que toute cette petite caste commence à peine à découvrir la boîte de Pandore qu'ils ont ouvert, et on n'a pas fini de rire à mon avis.
Autre question, autre sujet, mais qui est intimement lié, bien évidemment, quand l'état de droit bascule dans l'arbitraire. Vous voulez maintenant, pour votre second édito, Mathieu, revenir sur la référence à l'état de droit qui traverse notre société, mais qui justifie aujourd'hui l'appel à la sanction contre une chaîne info.
Ouais, je me ferai plus rapide parce que j'ai pris beaucoup de temps pour le premier édito. Alors, je vous le résume simplement. On le sait, la première étape, qu'est-ce que c'est? C'est le passage par l'ARCOM qui dit « CNews respecte la loi ». « CNews respecte la loi », c'est fini. Théoriquement, c'est fini. Dans une société, il faut respecter la loi. Et on ne nous demande pas de respecter autre chose que la loi. Tout le monde, les mœurs, les bonnes gens, mais bon. Alors là, passage par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, que fait le Conseil d'État? Parce que manifestement, je l'ai dit, il veut frapper contre CNews. Il décide de réinterpréter la loi, mais la réinterpréter à un point tel qu'il en écrit une nouvelle dans les faits. Le Conseil d'État produit le droit. Donc là, le Conseil d'État se prend pour le législateur. Il faut bien comprendre ce dont je parle ici. Le Conseil d'État dit, le législateur, c'est moi, je refais le droit. On nous a toujours expliqué que l'État de droit était là pour nous protéger de l'arbitraire du politique, de l'arbitraire de l'État, de l'arbitraire du politique qui serait en fait le lieu où on frappe, de frapper indistinctement les gens. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est au nom de l'État de droit, les instances sur lesquelles, par ailleurs, le commun est mortel, les électeurs n'ont pas d'emprise, qui peut changer le droit de manière unilatérale. Premier élément. Deuxième élément, je l'ai dit, c'est au nom de l'État de droit, désormais, qu'on va ficher les citoyens. C'est au nom de l'État de droit qu'on dit, et là, c'est là où on bascule dans un monde orwellien, où on décide qu'au nom de la liberté d'expression, il faut configurer de manière autoritaire par l'État les paramètres dans lesquels le débat public doit évoluer. Et avec le rêve d'un grand registre national des proscrits. Et le dernier point qui me semble très important ici, ce dont il est question, c'est une volonté de fermer la chaîne, je l'ai dit. Et là, les adversaires vont nous dire, non, c'est pas pour délit d'opinion. C'est pas pour délit d'opinion qu'on veut fermer CNews. C'est qu'elle ne respecte pas les règles qui l'encadreraient. Un instant, on fait des règles d'exception formulées de telle manière qu'elles visent explicitement une chaîne. Et là, ensuite, donc on paramètre le droit pour faire une forme de frappe particulière contre une chaîne. Et ensuite, on nous dit, vous respectez pas le droit. On appelle ça rire des gens de manière un peu trop ouverte. Dans les faits, il s'agit d'une justice d'exception pour faire taire, censurer et mater.
Arthur de Vatrigan, sur cet état de droit, est-il fragilisé par cette nouvelle décision?
Rappelez-vous, en septembre 2020, on en avait parlé, même ici je crois, il y avait une centaine de médias qui avaient publié une tribune intitulée « Ensemble défendons la liberté ». Une tribune dans laquelle ils affirmaient, je cite, « Il nous a paru crucial de vous alerter au sujet d'une des valeurs les plus fondamentales de notre démocratie, votre liberté d'expression ». Et ils rappelaient même avec des trémolos dans le crayon, là, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, « La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. » Mais ce qu'ils avaient oublié de nous dire, c'est que la liberté d'expression s'exerce dans un périmètre qui est défini non pas par la loi mais par eux, et que la loi est juste leur bras armé et les institutions leur laquais.
La publicité, messieurs. Dans un instant, on retrouve Michel de Jagère, historien. Vous allez revenir sur les grandes invasions européennes. Je crois que c'est à la une du Figaro Histoire, d'ailleurs. La publicité, on revient dans une seconde pour la suite de Face à Mathieu Bock-Côté. Quasiment 19h30 sur CNews, l'information avec Adrien Spiteri.
Un homme armé d'une lame de boucher a été abattu par la police à Paris. Les faits se sont déroulés dans le 19e arrondissement vers 3h du matin. Les policiers ont d'abord procédé à des tirs de pistolet à impulsion électrique avant de faire feu alors que l'homme menaçait les forces de l'ordre. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une confiée à l'IGPN. C'est l'une des conséquences des températures clémentes enregistrées ces derniers jours. La période des allergies au pollen démarre plus tôt cette année. Plus des trois quarts de la France sont en alerte rouge. 70 départements au total selon le réseau national de surveillance aérobiologique. Et puis c'est une première dans l'histoire du biathlon féminin. Les Françaises ont remporté le relais féminin lors des mondiaux de biathlon à Novemesto avec 38 secondes d'avance sur la Suède et plus d'une minute sur l'Allemagne malgré 11 pioches et 2 tours de pénalité. Les hommes, eux, terminent 3e du relais.
Merci beaucoup Adrien Spiteri. Il n'y aura donc pas de doublé français ce samedi. Mathieu Bock-Côté, Arthur de Vatrigan, Michel de Jagère, merci d'être avec nous. Vous êtes historien. Pourquoi avoir invité ce soir Michel de Gégère?
Alors, Michel de Gégère, qui dirige le Figaro Histoire, donc le tout dernier numéro du Figaro Histoire, est absolument passionnant. Il est consacré aux grandes invasions. Et c'est un thème qui, d'une manière ou de l'autre, fait, pour certains, à tout le moins, fait écho à notre époque. On pense souvent à la fin de Rome et les temps présents. Donc, les grandes invasions, est-ce qu'elles nous disent quelque chose sur les temps présents? Michel de Gégère, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je lisais à propos de ce numéro, donc consacré aux grandes invasions, dont on peut voir la couverture. Jean-Charles Gesselot, historien, disait de ce numéro il y a quelques semaines, ne le lisez pas. Alors, imaginons qu'on ne respecte pas l'avis de M. Gesselot et qu'on décide de le lire. Qui trouverait-on? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme réflexion, comme portrait de ce qu'ont été les grandes invasions?
Ben, je pense que c'est un grand compliment, puisque, en gros, je crois comprendre que notre contradicteur n'est pas d'accord avec ce qu'il imagine qu'il y a dans ce numéro et qu'il ne veut pas que les gens le lisent parce qu'il a peur qu'il soit convaincu par sa lecture. Et je pense qu'effectivement, elle est convaincante. Vous savez, en fait, le thème des grandes invasions a fait l'objet d'une révision historiographique au XXe siècle où on est un petit peu revenu, si vous voulez, sur l'aspect romantique de l'histoire telle que l'a pu la raconter Edward Gibbon, avec des hordes de Germains qui viendraient abattre l'Empire romain qui s'effondrerait, laissant place à la nuit du Moyen-Âge. On est revenu sur tout cela pour un processus beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, avec des allers-retours, avec des contacts très nombreux entre les Germains et les Romains, avec des Germains qui sont au service des Romains, avec des séditions internes, avec des incursions extérieures. Enfin, donc un processus complexe qui a amené une certaine école historiographique à en venir à un petit peu négliger le contexte militaire, négliger la dimension militaire de ces incursions barbares, et pour ne voir que des déplacements de peuples finalement peu significatifs. Ils ne sont pas très nombreux, il faut bien reconnaître que c'est des très petits nombres, et qui n'auraient pas eu finalement de conséquences. En revanche, il y a une autre école qui continue à maintenir le caractère décisif du bouleversement, non pas démographique, mais politique, qu'ont suscité les invasions germaniques, et donc à tenir sur le terme d'invasion. Alors, dans ce numéro du Figaro Histoire, nous avons fait dialoguer, au fond, les deux écoles, puisque j'ai deux représentants éminents de l'école, disons, un petit peu transformiste, qui sont Bruno Dumézil et Michel Bagnard, qui, eux, minorent un petit peu le caractère dramatique et insistent sur les éléments de continuité qui sont réels. Et puis j'ai deux historiens plus portés sur l'histoire militaire, Peter Heiser, un Britannique, Alessandro Barbero, un Italien, qui au contraire montre toutes les dimensions militaires et violentes du phénomène. Donc je pense que c'est un numéro assez équilibré. La réaction qui s'est faite sur le titre. Le titre, Les grandes invasions, eh bien oui, lorsqu'on fait un journal, on essaye de parler aux gens de ce qu'ils comprennent. Et pour être clair, pour que l'on sache, il se trouve que dans l'esprit du public, les grandes invasions germaniques, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Et donc, ce que nous proposons, c'est d'en montrer la complexité, les enchaînements.
Alors, si on veut les définir historiquement, pour ceux d'entre nous qui connaissent, on connaît l'expression, les grandes invasions, les invasions barbares, sont des termes qui habitent l'imaginaire collectif. Mais si on cherchait à les définir à peu près pour l'honnête homme qui voudrait savoir de quoi nous parlons exactement.
Alors, les définir, c'est un phénomène qui s'étend sur un siècle ou deux siècles, en fait, et qui s'étend sur de la fin du deuxième siècle au milieu du sixième siècle, si vous voulez, donc, enfin, qui est très long, avec une période particulièrement dramatique pour l'Empire d'Occident entre 378 et 476. Les dates ne veulent rien dire, et en même temps, ce sont des butoirs qu'on est obligé de donner, au cours duquel, eh bien, finalement, les structures politiques de l'Empire d'Occident vont s'effondrer à la suite, d'une part, d'incursions germaniques, d'autre part, de concessions faites par les autorités romaines qui vont accepter sur leurs terres des bandes guerrières, des troupes barbares qui vont constituer des États dans l'État et constituer quelquefois des peuples, car ce ne sont pas des peuples très anciens qui viennent envahir l'Empire romain, pas du tout. C'est au contraire l'intensité, si vous voulez, des contacts qui existent entre le monde romain et le monde germain limitrophe qui crée un pouvoir d'attraction de la part du monde romain qui paraît très désirable à ces bandes germaniques, et en engageant certains de leurs chefs comme généraux, en engageant certaines de leurs troupes comme mercenaires, eh bien un certain nombre de flux de richesses se font qui font que certains chefs barbares vont pouvoir constituer des peuples qui auront la taille critique pour affronter une armée romaine. Ce qui fait qu'il y a un historien américain qui s'appelle Patrick Gehry qui dit que le paradoxe de cette histoire, c'est que c'est l'Empire romain lui-même qui finalement a constitué les peuples qui allaient finalement provoquer sa perte.
Alors, quelle est la puissance d'attraction? Parce qu'on nous dit, les barbares, pour prendre la formule, arrivent à Rome attirés par quelque chose. Qu'est-ce qui attire finalement ces peuples, ces populations à Rome?
Le prestige de la paix, de la prospérité, des richesses, les produits. Il y a des échanges commerciaux, il y a de l'or qui circule. Et donc les barbares sont attirés par la lumière de cette prospérité, de cette civilisation, sans toujours en partager les principes, mais simplement en convoitant, si vous voulez, les résultats. Et puis, il y a aussi, en arrière, la poussée des nomades, il y a la poussée des Huns, qui se déplacent d'Asie centrale et qui poussent devant eux les barbares germaniques qui sont installés au nord de la mer Noire et qui, pour fuir les Huns, vont finalement aller se réfugier chez ces Romains qu'ils connaissent et dont ils convoitent les richesses.
Alors, quand on s'intéresse justement à l'enfer, la fin de Rome est demeurée un objet de méditation depuis probablement la fin de Rome, justement, c'est-à-dire comprendre l'effondrement de l'Empire romain, comprendre les grandes invasions. Est-ce qu'on a toujours considéré que ça nous disait quelque chose au temps présent, le thème des invasions barbares, des grandes invasions, de la chute de Rome? Est-ce que c'est un mythe finalement qui a accompagné l'histoire du monde occidental depuis quelques décennies ou quelques siècles?
Oui, évidemment. Et d'ailleurs, l'historien doit être prudent avec cela, parce que justement, il y a l'idée qui est présente dans la pensée occidentale, au moins depuis Machiavel, et qui a triomphé chez Gibbon, que l'Empire romain nous donnait le spectacle de la fragilité des civilisations et que lorsque l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, encore une fois probablement exagéré de façon romantique par Gibbon, eh bien nous donnait le spectacle de ce qui pouvait attendre toute civilisation un petit peu élaborée qui était toujours sujette à être renversée par des barbares. Et donc évidemment chaque époque a un petit peu projeté ses peurs sur cette histoire. Alors c'est ce qui explique la grande prudence des historiens. Vous avez dit que j'étais historien, je ne suis pas véritablement historien, ma formation c'est historien des idées, je dirige un journal d'histoire, je fréquente des universitaires, mais les universitaires, les historiens de profession sont généralement extrêmement prudents avec cela parce qu'ils voient bien le risque de projeter ses propres peurs sur l'analyse de la situation et finalement de raconter une histoire qui est notre histoire mais qui n'est pas celle que l'on prétend raconter. Il n'empêche qu'il me semble que l'intérêt de l'histoire, c'est aussi de nous donner des sujets de méditation pour aiguiser notre discernement, pour nous conduire ici et maintenant.
Arthur de Matrigan.
Alors dans votre formidable édito qui ouvre ce numéro, vous nous proposez à retenir, je crois, 5 leçons de ce siècle. Et il y en a une qui a attiré mon attention, je crois que c'est la troisième, c'est le rôle déterminant et essentiel que joue la religion, notamment au lendemain d'une conquête. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce rôle-là qui est, je trouve, souvent oublié ou négligé?
Alors, c'est absolument fondamental dans le cadre des invasions germaniques, puisque, en fait, les barbares avaient été très largement christianisés, car l'empereur Constance II avait envoyé un missionnaire, Ulfila, christianiser les Goths, et le christianisme s'était répandu chez les barbares sous la forme de l'hérésie arienne, parce que l'empereur Constance II, étant lui-même arien, avait envoyé un missionnaire.
L'hérésie religieuse, allez.
L'hérésie arienne, c'est une hérésie qui, en gros, ne croit pas à la divinité du Christ et pense que c'est un homme élevé à la divinité par ses mérites. Enfin, c'est très très complexe, en réalité, il y a un tas d'écoles, mais en gros, c'est cela. Et donc, ces barbares sont déjà en grande partie chrétiens et ceux qui ne le sont pas sont porteurs d'une culture extrêmement sommaire qui ne va pas tenir la route face aux splendeurs de la civilisation chrétienne telle qu'elle s'est épanouie dans le monde romain. Ce qui fait que cette conversion des Goths, si vous voulez, conversion des autres peuples barbares, ultimement, eh bien, va permettre une certaine transmission de la civilisation. C'est ce qui va permettre à la civilisation spirituelle, si vous voulez, de se maintenir. Il y aura beaucoup, contrairement, je pense, à ce qu'on dit trop parfois, il y aura quand même beaucoup de destruction matérielle, beaucoup de pertes de savoir-faire, donc un recul de la civilisation matérielle. Mais en revanche, la civilisation spirituelle, la langue latine, la littérature sera transmise dans les évêchés, dans les monastères, et surtout, et ça c'est un point fondamental, si vous voulez, par exemple en Gaule, c'est vraiment l'exemple le plus important, la conversion de Clovis au catholicisme nicéen, c'est-à-dire non pas à l'hérésie arienne, mais à la religion qui était déjà celle de la Gaule. Ce n'est pas Clovis qui a converti la Gaule au christianisme. Clovis, avec une petite poignée de guerriers francs, a envahi une Gaule qui était peuplée de gallo-romains qui eux-mêmes étaient très généralement chrétiens et catholiques. Et donc le fait que le chef barbare, le roi barbare, ait la même religion a fait qu'il y a eu une fusion des deux peuples et que les Francs, en réalité, ont disparu. Pourquoi ? Parce que les gens se sont mariés. Quand on a la même religion, on peut se marier. On a et donc en trois générations, on ne sait plus qui est gallo-romain, qui est franc, et tout le monde se prétend franc. Pourquoi tout le monde se prétend franc ? Parce qu'en justice, c'est plus intéressant de se dire franc, on a des privilèges que l'on n'a pas si l'on est gallo-romain. Et donc, au bout de trois générations, il n'y a plus qu'un seul peuple qui est franc et dont l'unité est faite autour du catholicisme nicéen. On a un contre-exemple en Espagne où les Visigoths sont ariens, et donc l'élite visigothique, qui, est, encore une fois, c'est une petite poignée d'hommes dans l'Espagne, ne se mélange pas pendant un siècle avec les populations autochtones, jusqu'au moment où le roi Récared se convertit de l'arianisme au catholicisme, et à ce moment-là, il y a à nouveau la fusion. Donc vous voyez, ce phénomène religieux, il a vraiment une double importance que l'on voit dans cet exemple, à la fois de transmetteur de la civilisation gréco-latine et de moteur de la fusion en un seul peuple des populations réunies.
Alors, vous nous conduisez à la deuxième partie de cet entretien. Donc la première partie, c'est seulement se rappeler ce qu'ont été historiquement les grandes évasions. Ensuite, la question des leçons, c'est-à-dire de quelle manière, vous dites, l'histoire est objet de méditation. Lorsqu'on se tourne vers ces événements aujourd'hui, quelle leçon, entre guillemets, quelle réflexion peut-on en tirer pour éclairer les temps présents, tout en sachant qu'aucune époque ne reproduit celle qui l'inspire ou celle sur laquelle elle réfléchit?
Oui, il faut bien être conscient des différences. Les grandes invasions ne sont pas un apologue de notre temps. Il est évident que tout le monde y pense, compte tenu du fait que l'Europe est aujourd'hui l'objet de courants migratoires qui font ressentir à une grande partie de sa population l'impression d'une possible submersion. Et donc on se tourne facilement vers l'exemple de ces grandes invasions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire, évidemment. Bon, il faut savoir que les circonstances sont très très différentes dans la mesure où il s'agissait à l'époque de tout petites entités démographiques, si vous voulez. Ça se compte en dizaines de milliers de personnes. L'ensemble des envahisseurs germaniques sur un siècle dans l'Empire romain d'Occident, c'est de l'ordre de 1 million pour une population de 25 millions. 1 million en un siècle, pas 1 million en même temps. Les peuples dont on parle, si vous voulez, les Vandales qui conquièrent l'Afrique, c'est-à-dire la Tunisie, enfin le Maroc, l'Algérie, mais très peu romanisée, et surtout la Tunisie, qui est le grenier de Rome, c'est 80 000 personnes. Les Francs, c'est quelque chose d'analogue, de l'ordre de 100 000 personnes. Seulement, ce sont des bandes armées qui, de 80 000 personnes, tirent 20 000 guerriers. Dans le même temps, l'Empire de 25 millions d'habitants a du mal à constituer des armées de 30 000, 40 000 guerriers.
Et pourquoi ? C'est en lien avec on dit quelquefois qu'il y a une forme de mollesse de Rome à un certain moment donné.
Mais c'est en lien d'abord entre la différence entre un peuple nomade et un peuple sédentaire. C'est-à-dire que la population romaine, elle est adonnée aux arts de la paix. Elle a besoin de sa population pour travailler la terre. On est dans une économie agricole qui n'a pas une technologie extrêmement sophistiquée. Et donc, il faut des bras pour travailler la terre. Et donc, ce ne sont plus des peuples de guerriers. Ils sont dans la paix depuis cinq siècles. Et donc, il y a une inégalité qui se crée par là. Donc, de grandes différences. Mais ces différences ne doivent pas... Et puis, ce sont des bandes armées qui arrivent comme des armées... Enfin, ça n'est pas... On dit qu'il ne faut plus parler d'invasion, il vaut mieux parler de migration. Mais alors, je trouverais ça... l'analogie à ce moment-là un petit peu dangereuse et insultante, puisque c'est la migration de peuples en armes. Voilà.
Ah oui, d'accord. Donc, alors, on revient donc sur cette période de petites forces qui sont une énergie vitale conquérante. De l'autre côté, un empire habitué à la paix.
Alors voilà, si vous demandiez quelle leçon on peut retirer, oui. Ben, la leçon, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'utopique dans l'idée de faire perdurer, je n'ai pas de grande solution à proposer, malheureusement, de faire perdurer une zone de civilisation prospère et pacifique entourée de zones d'anarchie. Si vous voulez, la seule façon... Pourquoi les Germains ne sont pas arrivés plus tôt dans l'Empire romain? Probablement parce que leur démographie ne leur permettait pas, les peuples étaient une poussière de peuples, etc. Mais sinon, il y a un attrait irrésistible de la civilisation les populations qui vivent dans le chaos et l'anarchie sont forcément tentées d'aller là où ça se passe le mieux.
Voilà. Arthur de Vatrigan,
même si vous mettez en garde dès le départ de ne pas faire d'anachronisme et de ne pas calquer l'histoire sur notre histoire d'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui marquent un peu. C'est, vous dites notamment que l'empire multinational, c'est très bien pour la conquête, pour l'expansion, pour les échanges. Par contre, quand il s'agit de garder des frontières ou de se protéger pour la défense, là, on est mal barré. Et évidemment, là, on peut penser qu'à l'Union européenne, on se dit, en fait, on a le même problème. Quoi. C'est-à-dire qu'on est infoutu de gérer nos frontières et notre défense.
Bah, ce qui est très frappant, mais parce qu'avant l'Union européenne, il y a quand même toutes sortes d'exemples historiques, si vous voulez, c'est que la forme impériale est une forme qui permet de réunir, d'avoir une démographie importante, qui permet d'avoir des armées importantes. Et quand on est en phase d'expansion, de réunir des grandes armées, pensons à Napoléon, pour aller conquérir la Russie. Voilà. Donc il y a une puissance agressive, une puissance expansionniste de la forme impériale. En revanche, la forme impériale en défense, eh bien, elle se retrouve avec une énorme frontière à défendre. Elle ne sait pas à quel endroit concentrer ses forces. Et donc c'est l'adversaire qui choisit où il attaque. Et par ailleurs, il est évident qu'il n'y a pas dans un empire multinational le patriotisme qu'il existe dans une nation identitaire. Et l'exemple de Rome nous le montre. Les Romains étaient patriotes au sens où il y a une immense adhésion de toute la population de l'Empire romain au 4e, 5e siècle à la forme de vie des Romains, au mode de vie des Romains, à la Roman way of life, si vous voulez. Mais ça ne crée pas un patriotisme qui implique de sacrifier justement cette douceur de vivre pour défendre sa frontière.
Alors, vous avez écrit un livre, un autre, je me permets de le mettre en lien, Les Derniers Jours, qui était une réflexion sur la chute de Rome, une histoire. En fait, vous avez contesté votre statut d'historien, mais vous me permettrez de vous le redonner. les Derniers Jours, donc un livre majeur, et vous revenez donc sur la chute de Rome. On nous a dit ces dernières années, Rome n'est pas vraiment tombée, et en fait, ça s'est très bien passé, et finalement, rien n'a eu lieu, finalement. Et vous nous expliquiez dans ce livre, non, Rome est tombée, et c'était une catastrophe à bien des égards. Je vous demanderais, dans le cadre romain, que veut dire lorsqu'une civilisation s'effondre? Quelle forme prend cet effondrement? Je devine que ça ne se fait pas en un jour, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler, encore une fois, d'effondrement de la civilisation. Là, c'est pour le coup Brian Ward Perkins, qui est un historien britannique, qui a écrit un livre là-dessus, qui est tout à fait éclairant, qui montre que, si vous voulez, il compare deux exemples. C'est la conquête arabe vis-à-vis du sud de l'Empire romain d'Orient et la conquête germanique avec l'Empire d'Occident. Dans un cas, la conquête germanique, vous avez une conquête qui encore une fois, dure deux ou trois siècles avec de grandes destructions et une destruction de la civilisation matérielle. Mais comme les barbares n'ont pas, eux, de culture alternative, si vous voulez, à proposer, eh bien, on vit moins bien dans un confort réduit, un monde dégradé, mais malgré tout, la langue, la culture, la religion se maintiennent. Dans le cas de la conquête arabe, tout se règle avec la bataille de Yarmouk, qui est un désastre pour l'Empire d'Orient. Et après, il y a quelques batailles, bien entendu, mais tout ça est réglé en très peu de temps. La conquête est fulgurante et donc il y a peu de destruction matérielle. Et le monde arabe, le monde qui est conquis par les Arabes, va être capable de réalisations matérielles extraordinaires. Si vous regardez les mosquées qui sont construits à Jérusalem sur l'esplanade du Temple, ce sont des mosquées qui sont construites sur le mode byzantin à une époque où on est devenu incapable de construire quelque chose d'analogue en Occident. En revanche, la civilisation spirituelle a disparu. L'arabe s'impose, le Coran s'impose et les populations n'ont plus le choix que entre le fait d'adopter les modes de vie impliqués par le Coran ou vivre dans un statut de soumission dégradée ou dégradante. Voilà. Et donc, le phénomène n'est pas le même. Il y a donc la question de comment on est détruit. Est-ce que l'on résiste, oui, si vous voulez, et au risque de grande destruction matérielle? Et il y a la question de par qui on est détruit. Est-ce qu'on est détruit par des gens qui sont eux-mêmes porteurs d'une culture forte, ou est-ce qu'on est détruit par des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est d'adopter notre civilisation?
Alors, il nous reste une minute, une question toute simple. J'ai l'impression qu'il y a un principe qui est donc dans d'autres de vos ouvrages d'ailleurs, qu'on voit dans ce numéro du Figaro Histoire. Il existe une telle chose qu'une forme d'instinct vital ou de principe. Et c'est difficile de le quantifier, c'est difficile de le conceptualiser formellement, mais il existe une telle chose que des civilisations qui sont conquérantes, vivantes, et d'autres qui sont portées par une fatigue de vivre. Est-ce que c'est présent ou est-ce que ces concepts veulent dire quelque chose pour penser les civilisations?
La fatigue de vivre, elle se traduit dans la démographie. Parce que quand même, une des sources, si vous voulez, des ennuis de l'Empire romain. On n'a pas pu aborder toutes les causes parce que réduire la chute de l'Empire romain à une seule cause est absurde. Mais l'une des causes importantes, c'est la faiblesse démographique de l'Empire qui a un immense territoire à tenir avec trop peu de monde et qui donc a fait appel à des soldats barbares parce qu'il n'a pas assez d'hommes pour tenir ses frontières. Mais cette fatigue démographique, elle dit elle-même quelque chose. Lorsqu'un peuple renonce à se perpétuer, il y a des chances qu'il renonce à se défendre.
Eh bien, écoutez, un grand merci à tous les trois. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et dans un instant, c'est l'heure des Pro 2.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.